Journal du Monde. Aujourd'hui, vous étiez en compagnie d'Idrissa Sidulia et de Michel Joseph à la mise en bande. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique. Bonjour, au micro Idrissa Sidulia pour cette édition matinale du Monde aujourd'hui. Au Mali, les représentants de l'Union africaine, de la CDAO, de l'ONU et de l'Union européenne expriment leurs préoccupations et appellent tout le monde à la retenue devant les troubles à Bamako. De son côté, l'imam Mahmoud Diko, à la tête de la coalition qui réclame un changement de pouvoir, a appelé ses partisans au calme dimanche, après 2 jours de troubles qui ont fait une dizaine de morts et créé un climat quasi insurrectionnel à Bamako. J'y reviendrai plus en détail dans un instant avec notre correspondant sur place, Kassim Traoré. Une Américaine qui s'était rendue au Nigeria sur la promesse d'un mariage a été libérée après avoir été retenue pendant plus d'un an contre son gré par un escroc qui l'a aussi agressée sexuellement, a indiqué hier la police. L'auteur présumé de cette escroquerie avait rencontré cette Américaine sur Facebook avant de lui extorquer quelques 48 000 dollars en lui promettant un mariage. En Afrique du Sud, le président Cyril Ramaphosa a décidé hier de réimposer un couvre-feu et de suspendre à nouveau la vente d'alcool face à une recrudescence des cas de coronavirus dans son pays. Alors que nous nous dirigeons vers le pic des infections, il est vital que nous ne surchargions pas nos cliniques et nos hôpitaux avec des blessures liées à l'alcool qui auraient pu être évitées, a déclaré le président Ramaphosa dans une allocution télévisée. Selon lui, 12 000 cas avaient été enregistrés chaque jour ces dernières semaines. Et puis, toujours en Afrique du Sud, Zinzi Mandela, la fille cadette de l'ancien président Nelson Mandela, est morte ce matin dans un hôpital de Johannesburg à l'âge de 59 ans. On ignore les causes de son décès. La Guinée équatoriale a affirmé hier être le premier pays africain à avoir acquis des doses de l'antiviral Remdesivir, seul médicament à avoir montré une relative efficacité pour traiter le COVID-19. Ce médicament a été initialement développé contre la fièvre hémorragique Ebola. Son utilisation en urgence dans les hôpitaux a été autorisée par les États-Unis, le Japon puis l'Europe. À Madagascar, le président Ange Rajoel a indiqué hier à la télévision que 2 parlementaires étaient morts des suites d'une infection au COVID-19. Il a ajouté que 25 autres parlementaires ainsi que des employés de la présidence ont été aussi infectés par la maladie. La grande île compte 2573 cas, dont 35 morts. Aux États-Unis, le pays le plus lourdement touché, la pandémie continue de flamber et un débat fait rage sur la réouverture des écoles défendue par le président Donald Trump mais jugée dangereuse par ses adversaires du Parti démocrate. 59 747 nouveaux cas en 24 heures ont été recensés selon l'université Johns Hopkins qui porte le nombre total de cas à 3 301 820 et celui des décès à 135 171 avec 442 de plus en 24 heures. Samedi, un record de 66 528 nouvelles infections en 24 heures avait été atteint. Par ailleurs, le Mexique voisin est devenu hier le 4e pays en termes de décès devant l'Italie. Tout à l'heure avec Michel Joseph, le point de la pandémie dans le monde. Pour rester aux États-Unis, un Américain âgé de 30 ans est mort au Texas des suites du coronavirus après avoir été infecté par le COVID-19 lors de ce qu'on appelle ici une COVID party. L'idée de ce genre de soirée organisée par une personne contaminée et de se réunir et de voir si ce virus est bien réel et si quelqu'un l'attrape. Selon la responsable médicale d'un hôpital local, avant de mourir, le patient a dit à l'infirmière à son chevet, « Je crois que j'ai fait une bêtise, je croyais que ces virus étaient une arnaque, mais non. » La suite de nos informations, au Mali, dans la nuit de samedi à dimanche, les forces de l'ordre ont fait une descente musclée à Badalabougou. C'est dans la rue où se trouve la mosquée de l'imam Mahmoud Diko. Le bilan fait état d'une dizaine de morts, tous des jeunes. L'imam Diko a demandé aux manifestants de rentrer calmement après l'enterrement des victimes, exhortant les protestataires à la non-violence. De Bamako, notre correspondant Kassim Traoré.
C'est après la prière mortuaire sur les victimes de l'attaque contre sa mosquée que l'imam Diko a dit qu'il ne souhaite pas faire partie des casseurs et ne veut pas être assimilé volontairement à tort aux casseurs.
Mais notre détermination pour ce combat est inébranlable. Nous sommes là, le combat que nous menons, c'est pour restaurer la nation malienne, c'est pour encore donner à cette nation sa dignité, son honneur, c'est pour faire en sorte que cette gouvernance catastrophique qui nous a amenés conduit dans cette situation où le Mali est en train de s'abîmer sous nos yeux ne soit pas une réalité, que ça soit un souvenir.
L'imam dit avoir mené un combat pour le changement de gouvernance.
Ce mouvement que nous avons enclenché, je pense réellement, c'est le début d'un espoir qui doit rester et qui doit se poursuivre, mais dans la dignité, dans la tranquillité, dans le respect des autres. Et c'est ce que je dois dire, tout en n'oubliant pas tous les pays amis qui nous ont appelés, qui nous ont assistés, qui ont envoyé des messages pour nous demander encore d'être mesuré. Quand on vous parle, on vous demande d'être mesuré chez vous, c'est un conseil d'amis.
Se prononçant sur le sort des leaders arrêtés, il dit avoir eu des promesses de leur libération. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Au Sahel, la force européenne Takuba débute ses opérations ce mercredi. Il s'agit de forces spéciales destinées à accompagner les soldats maliens au combat face aux djihadistes avec une centaine de militaires estoniens et français. Eric Manirakiza.
La France lance la Task Force Takuba, constituée d'unités mixtes sahéliennes et européennes qui iront ensemble au combat et qui sera prête à agir à partir du 15 juillet. A déclaré la ministre française des armées, Florence Parly. L'opération vise à aider les armées sahéliennes à gagner en autonomie, précise la ministre. En octobre, un deuxième contingent arrivera, une soixantaine de membres des forces spéciales tchèques, puis en janvier, un troisième avec 150 Suédois, détaille Ted, en ajoutant que l'Italie vient de signifier son souhait de rejoindre Takuba. Le commandant de Barkhane, le général Pascal Facon, a dénoncé le recours par les djihadistes à des enfants soldats endoctrinés et entraînés. Florence Parly confirme par ailleurs que ces enfants soldats ont été blessés ou tués au cours des combats livrés dans la région par la force militaire française Barkhane. C'est important de le dénoncer et d'en avoir pleinement conscience car c'est un phénomène très compliqué à gérer et à prévenir pour nos soldats. Ces derniers mois, l'armée française et ses partenaires locaux ont multiplié les offensives au Sahel dans le but d'inverser le rapport de force sur le terrain où les groupes djihadistes avaient multiplié les attaques d'envergure en 2019. D'après Mme Parly, ces efforts ont permis d'obtenir des résultats militaires et des succès en matière de contre-terrorisme.
La persistance du coronavirus préoccupe les gouvernements européens qui ont annoncé hier de nouvelles mesures pour tenter d'éviter une deuxième vague. Le président américain Donald Trump, pour sa part, est apparu la veille pour la première fois portant en public un masque de protection. Les derniers développements avec Michel Joseph.
À la faveur du déconfinement, de nouveaux foyers sont apparus en Europe. Bien que la situation paraisse sous contrôle pour le moment, les autorités sont sur le pied de guerre. En France, les cultes ont repris dimanche dans une église évangélique à Mulhouse, mais le gouvernement va imposer un test virologique aux voyageurs provenant de pays classés rouges. En Espagne, lors du scrutin régional du Pays Basque et en Galice, où de nouveaux foyers de contagion sont apparus récemment, les électeurs étaient masqués. Aux États-Unis, pays le plus touché avec plus de 135 171 morts, La première apparition masquée du président Trump lors d'une visite à l'hôpital militaire Walter Reed dans la banlieue de Washington a une forte valeur symbolique. La maladie COVID-19 continue de progresser rapidement en Amérique latine avec plus de 71 000 morts au Brésil, 11 000 au Chili et au Pérou, mais aussi au Moyen-Orient, où elle a fait plus de 20 000 morts, dont plus de la moitié en Iran. Le guide suprême Ali Khamenei a appelé à sauver le pays, exhortant chacun à la responsabilité pour rompre la chaîne de transmission du virus, dont la résurgence en Iran est vraiment tragique. Au Sri Lanka, l'aéroport international, dont la réouverture était initialement prévue le 1er août, restera finalement fermé.
La Minute Éco, Nanit Talali.
Le Madagascar a reçu 213 millions de dollars de la Société d'assurance de la Mutuelle panafricaine de gestion des risques. Ce paiement de l'ARC représente la prime d'une assurance contre la sécheresse, souscrite par Madagascar avec le soutien de la BAD. Les fonds protégeront 600 000 personnes frappées par la sécheresse et apporteront l'appui nutritionnel à des enfants de moins de 5 ans et l'approvisionnement en eau à 84 000 ménages. Au Kenya, le gouvernement renonce à privatiser son industrie sucrière. Au lieu d'être vendue, les 5 sucreries publiques seront plutôt louées pour 20 ans. En contrepartie, les gestionnaires devront investir dans la restructuration et la modernisation des unités. Cette nouvelle stratégie pourrait marquer la fin d'une époque où la privatisation était perçue comme le seul salut de l'industrie sucrière. Le Rwanda investira 7 millions de dollars dans la promotion du Made in Rwanda dans son budget 2020-2021, écrit l'agence Ecofin. Le nouveau financement aidera une vingtaine d'entreprises locales afin d'être compétitives au plan national et international. Terminons par la RDC qui recevra 36 millions de dollars du FIDA pour combattre la pauvreté rurale et améliorer les revenus des petits producteurs, la sécurité alimentaire et la résilience au changement climatique au bénéfice de 410 ménages agricoles dans 4 provinces, Maniema, le Mami, le Kasaï oriental et le Kasaï central.
Les sports à présent avec Élisée Onpatine. Élisée, bonjour.
Bonjour Idrissa et bonjour à tous.
Au Sénégal, en phase de projet depuis le mois de septembre dernier, l'Union nationale des footballeurs professionnels a tenu son assemblée générale élective ce samedi 11 juillet.
Oui, et les joueurs en activité, les anciens internationaux ainsi que les légendes comme Yatna Diop, El Hadj Diouf et Ferdinand Koli ont tous répondu présents. Pour les acteurs, l'objectif est la reconnaissance, la réhabilitation du footballeur local, mais aussi la défense de ses intérêts moraux et matériels. De notre correspondant à Dakar, Seydina Abagueyi.
En 10 ans d'existence, le football professionnel sénégalais n'a jamais eu d'instance dédiée aux joueurs. Ces derniers n'avaient même pas accès aux différentes sphères de décision, une anomalie que les footballeurs professionnels ont décidé de corriger en mettant en place une structure capable de gérer leurs intérêts, comme l'indique Abdoulaye Diop, trésorier général du syndicat.
Nous allons envoyer des représentants au niveau de la Fédération et de la Ligue sénégalaise de football professionnel, parce que vous n'êtes pas sans savoir que depuis le début du football local, aucun joueur n'est représenté dans ces instances. Toutes les décisions sont prises sans pour autant demander l'avis des joueurs, n'est-ce pas? On a vu également que des joueurs sont renvoyés de façon pas catholique du tout, ce qu'on appelle les licenciements abusifs.
Comme ces mots qui les empêchent de s'épanouir, les joueurs ont porté leur choix sur Lamine Boup, le tout nouveau secrétaire général, est déjà en ordre de bataille. Pour lui, l'urgence est d'intégrer les organes de décision du football sénégalais afin que le professionnel puisse enfin avoir la reconnaissance qu'il faut.
Nous allons avoir un poste au comité exécutif de la fédération, à la chambre de résolution des litiges. Donc voilà, on va travailler ensemble. Parce qu'aujourd'hui, personne ne peut parler de football sans ses acteurs. Et quand il y a un joueur qui gagne des centaines de millions ou 250 millions pour le club, mais qu'est-ce qui en profite? Ce n'est même pas les joueurs, ce sont les dirigeants qui en profitent. Ça doit s'arrêter.
Pour bien développer le football professionnel, il faut placer les acteurs au cœur du système. Telle est la conviction de Ferdinand Koli, ancien international sénégalais, mandaté par FIFPRO, le syndicat international des joueurs de football. Il précise cependant que la conciliation sera la meilleure méthode pour atteindre les objectifs fixés.
On ne peut pas être premier africain et au niveau FIFA et aussi ne pas avoir les infrastructures et puis les moyens de pouvoir assurer un minimum pour nos joueurs.
À Dakar, Sidina Abagay pour VOA Afrique.
Élysée, le Cameroun pourrait ne pas organiser le Final Four de la Ligue des Champions de la CAF.
Tout à fait, Idrissa. D'après Beansport, le gouvernement camerounais aurait refusé d'organiser ces trois matchs en raison de la propagation du Covid-19. Un nouvel appel d'offres sera bientôt lancé par la CAF afin de déterminer un pays hôte. A noter que les affiches attendues opposeront le Raja de Casablanca aux Zamalek du Caire et le Wydad à Al Ahly.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, en votre compagnie, Idrissa Sidoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Mali, une quinzaine de civils tués à balles réelles, une centaine de blessés, répartis entre certains centres de santé de Bamako et une vingtaine d'arrestations, c'est le bilan des événements en cours dans ce pays. Certaines victimes ont été inhumées collectivement. Le président Ibrahim Boubacar Keïta, dans un discours à la Nation dans la nuit de samedi, a condamné ces violences avant de dissoudre la Cour constitutionnelle. C'est l'arbitrage de cette institution lors des dernières législatives qui est à la base des contestations actuelles. De Bamako, notre correspondant Kassim Traoré.
Suite aux incidents du vendredi dernier, le Premier ministre a rendu visite aux blessés à l'hôpital Gabriel Touré. Le bilan provisoire était de 3 décès et 74 blessés. Boubou Cissé, Premier ministre du Mali.
L'Assemblée nationale se retrouve pillée, saccagée. L'ORTM occupée. Des biens d'honnêtes citoyens aussi pillés. Des voitures d'agents de services publics qui ont été vandalisées et saccagées également. Et ce sont des actes évidemment que le gouvernement conduit et que nous souhaitons ne plus voir se répéter dans notre pays. Ce sont des actes qui ont engendré des blessés graves et même plus graves, des morts. Je présente évidemment mes condoléances les plus émues aux familles de ceux qui ont perdu leur être cher.
Dans la journée du samedi, deux leaders du M5-RFP ont été interpellés, en plus de trois arrêtés le jour du rassemblement. Maître Muntaga Tall, grâce à son statut d'avocat, a été libéré. Maître Demba Traoré, membre du M5-RFP.
Notre Maliba ne peut pas s'infliger à perpétuité des souffrances sociales, civiles et économiques. Notre Mali ne peut pas s'interdire le chemin de la paix, de la concorde et de la liberté. Encore moins être privé de son honneur et écarté du bien et mieux vivre ensemble en suivant éperdument un homme affaibli, en déphasage total avec la réalité et qui n'a que des mots pour prétendre soigner nos maux.
Dans les rues de Bamako, il y a des pneus brûlés, des barricades dressées sur les grandes voies de la capitale et des édifices publics ont été incendiés. Le président Ibeka prend la parole pour la quatrième fois en un mois.
J'adresse mes condoléances les plus émues aux familles des défunts. J'ai prié pour le prompt rétablissement des blessés et pour la sauvegarde et la préservation de la vie, même des membres restants de la Cour constitutionnelle. J'ai donc décidé d'abroger les décrets de nomination des membres restants de la Cour constitutionnelle et d'aller vers la mise en œuvre des recommandations issues de la mission de la CEDEAO. Des faits d'une extrême gravité ont été posés qui méritent examen et assurément sanctions judiciaires appropriées.
Au moment où Ibeka tenait son discours, les forces de l'ordre faisaient une descente musclée au niveau de la mosquée de l'imam Mahmoud Diko à Badlabougou. Le bilan est d'une dizaine de morts par balle et plusieurs blessés. Cheikh Mar Cissokho déplore la présence des mercenaires parmi les forces de l'ordre.
Parce que les mercenaires existent et qu'il y a des milices disques, des mercenaires, les gens ont été entendus, nous parlons aucune de nos langues ici. Et nous savons qu'ils ont fait appel à une société française de France qui a fait venir des gens ici. Donc, mais les enquêtes vont révéler tout cela.
Plus d'une vingtaine de personnes membres des M5-RFP ont été interpellées et conduites au camp 1 de la gendarmerie de Bamako. Maître Alifa Habib Kone, du collectif des avocats.
Les avocats, au départ, ont eu d'énormes difficultés à accéder à leurs clients. Beaucoup ont été bloqués avant de pouvoir accéder aux unités d'enquête parce que les autorités chargées des enquêtes n'avaient pas accepté qu'ils puissent accéder à leurs clients. Donc, en fin de compte, sur l'intervention que nous saluons du bâtonnier de l'ordre des avocats, du procureur de la République près la commune 3, le procureur Kassogué, l'ensemble des avocats ont finalement pu accéder à leurs clients pour les assister.
De façon générale, leur défense sera assurée comme le prévoit le droit selon leurs avocats. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Restez avec nous à Bamako, au Mali, sur le 102 FM, c'est VOA Afrique, 24h sur 24.
Au Nigeria, l'Agence nationale de lutte contre les crimes financiers est dans la tourmente. Son président, Ibrahim Magou, est emprisonné depuis une semaine et fait l'objet d'une enquête pour corruption. Il a été suspendu de ses fonctions par le président Buhari, qui a aussitôt nommé en remplaçant par intérim. C'est encore la confusion depuis son arrestation lundi dernier. Reportage de Gilbert Tamba à Abuja.
Il était considéré comme un cadre intransigeant et a été une figure clé de la campagne anticorruption menée par Buhari depuis son arrivée au pouvoir en 2015. Un objectif majeur de sa campagne et une promesse pour laquelle il a été élu. Durant les 5 dernières années qu'il a passées à la tête de l'agence anticorruption, plusieurs hauts responsables politiques, dont plusieurs anciens gouverneurs des États puissants, des ministres ont été emprisonnés et d'autres sont encore devant la justice. Hamza Laval est le fondateur de l'ONG Follow the Money ou encore Suivre la trace de l'argent.
Les Nigériens veulent en savoir plus. Présentement, il y a beaucoup de rumeurs, beaucoup de fausses informations. Pourquoi le président ne veut pas s'adresser aux Nigériens pour nous donner des informations? Dis-nous ce qui se passe.
Tell us what is happening. Is Magu under arrest?
Est-ce Magu a été arrêté? A-t-il été enlevé ou il fait l'objet d'une enquête? Quels sont les détails de cette enquête? Nous voulons savoir s'il est lui aussi impliqué dans ce scandale financier et ce qu'il a fait.
Certains Nigériens dénoncent des accusations motivées par des intérêts politiques et nombreux sont ceux dans l'élite financière et politique nigériane qui souhaitent évincer Magou. Mais d'autres estiment que le gouvernement a le droit d'enquêter sur les activités d'une agence comme l'IFCC pour éviter que son dirigeant ne devienne trop puissant pour être interrogé. Fête Mwadichi est la directrice exécutive du Centre de l'Initiative pour la Transparence.
Même si c'est politiquement motivé, les gens ont été arrêtés. Ces arrestations étaient aussi pour des buts politiques. Vous n'êtes pas l'alpha et l'oméga d'une institution. Il y a la loi. Et si vous êtes recherché, la loi doit être appliquée. Lorsqu'il est responsable de l'EFCC, il a procédé à des arrestations des opposants. Donc les gens disent que tout cela était également sur des intérêts politiques. Il est lui aussi tombé dans un piège politique.
Le gouvernement nigérien n'a pas donné plus de détails sur les allégations contre Ibrahim Magou, suspendu de ses fonctions de chef de l'IFCC par le président Muhammadu Buhari. Selon des informations, le responsable de la lutte contre la corruption est accusé de s'être octroyé des biens saisis lors des perquisitions visant des biens mal acquis par des anciens hauts cadres et ministres d'État. Un détournement évalué à plus de 100 millions de dollars américains, selon des sources citant une pétition adressée au président Muhammadu Buhari. Certaines organisations de la société civile avaient exprimé des doutes sur la manière avec laquelle la Commission de lutte contre les crimes économiques et financiers gérait des fonds récupérés des fonctionnaires d'État corrompus. Djibril Ibrahim travaille pour le Centre pour la démocratie et le développement et professeur de sciences politiques.
C'est troublant que le chef de la commission chargée de lutter contre la corruption est lui-même soupçonné d'être corrompu. Je pense que c'est d'autant plus troublant que ça fait 5 ans que cette question perdure. Donc ça fait 5 ans que ce gouvernement est au pouvoir. Et pendant tout ce temps-là, il y avait des soupçons. Et rien n'a été fait jusqu'ici.
L'agence de lutte contre les crimes économiques et financiers IFCC est depuis dirigée par un officier de police ayant au moins le rang de commissaire ou commissaire de police assistant. Des appels commencent à se faire entendre pour un changement de personnalité à la tête de la puissante institution ou à revoir l'acte qui a donné naissance à son établissement. Gilbert Tamba, Abuja, VOA Afrique.
Au Gabon, la pharmacopée est désormais associée à la recherche de solutions pour lutter contre la pandémie de COVID-19. Le gouvernement invite les chercheurs nationaux à soumettre leurs travaux thérapeutiques au Comité national d'éthique de la recherche scientifique pour validation. Pour davantage de détails, notre correspondant à Libreville, Ismaël Obiangze.
C'est l'occasion pour nous de bâtir une médecine traditionnelle à introduire dans le système de santé gabonais, estime professeur Pierre Vondon, philosophe de la médecine.
Face à une racialité de la médecine occidentale,
qui est une médecine des corps. On aura la médecine de l'esprit et la médecine des corps pour fonder une troisième médecine que j'appelle la médecine interculturelle. La stratégie, qui doit être une stratégie gabonaise, doit s'appuyer sur la recherche scientifique gabonaise.
Selon une partie de l'opinion publique, les chercheurs gabonais ne se font pas suffisamment entendre dans la croisade africaine contre le coronavirus. Professeur Sophie Abouangoué, directeur de l'Institut de la pharmacopée et de la médecine traditionnelle, en abrégé IFAMETRA.
On peut avoir une liste de plantes, mais il faudrait qu'on teste derrière sur le virus. Et ceci ne peut se faire qu'en collaboration avec le CIRF, qui est certifié par l'OMS pour les tests du COVID-19.
L'appel à contribution de la pharmacopée dans l'effort national de lutte contre le nouveau coronavirus honore visiblement les acteurs de la médecine traditionnelle. On écoute Patrick Gemesson.
Lorsque nous traitons une maladie chez nous, les Nganga, nous consultons d'abord la personne, nous traitons d'abord l'esprit, parce que tout commence dans le plan spirituel.
Les Nganga dont il parle, ce sont les guérisseurs traditionnels, mais au niveau du ministère de la Santé, les contributeurs appelés à la rescousse contre la pandémie doivent cependant se soumettre aux exigences internationales dans l'approche thérapeutique. Docteur Marx Limoku, ministre gabonais de la Santé.
Des compatriotes ont présenté des médicaments candidats qui vont être analysés. Et avant que ces médicaments ne soient utilisés par le ministère de la Santé, il faudrait que les responsables de ces molécules suivent un procès.
Les ministres de l'Enseignement supérieur et de la Santé viennent de lancer une concertation avec la communauté scientifique et médicale au sein d'une plateforme permanente censée valoriser les différentes solutions qui seront retenues dans le cadre d'un plan de riposte local contre la COVID-19. Libreville, Ismaël Obianzé pour VOA.
Au Burkina Faso, le MPP, le Mouvement du Peuple pour le Progrès au pouvoir, a investi samedi le président sortant, Roch Marc Christian Kabore, comme son candidat à la présidentielle de novembre. Cette candidature a sa propre succession, malgré le contexte social, économique et sécuritaire difficile, n'a rien d'une surprise, nous dit notre correspondant à Ouagadougou, Kader Traoré.
Un peuple ! Un peuple ! Un coup !
C'est dans une salle du palais des sports de Ouara 2000, chauffée à blanc, que les militants du MPP, Mouvement du Peuple pour le Progrès, ont porté leur choix sur Roch Christian Kabore pour être leur candidat à l'élection présidentielle de novembre 2022.
Les congressistes, à l'unanimité, sont arrivés à la conclusion qu'une et une seule personne méritait que nous lui fassions à nouveau confiance pour briguer la magistrature suprême pour le mandat 2021-2025.
Simon Compaoré, président du MPP.
Et cet homme, c'est Roch Marc Christian Kabore. En très peu de temps, nous sommes passés de l'investiture du candidat du MPP à l'élection présidentielle du 22 novembre 2020 un peu à la consécration de Roch Marc Christian Kabore, qui était le candidat des forces de progrès.
Le candidat Kabore n'était pas présent à cette investiture. Il s'est fait représenter par le ministre Siméon Sawadogo de l'administration territoriale.
C'est un estime honneur pour moi d'avoir été instruit par son excellence, M. Roch Marc Christian Kabore, pour communier avec vous.
Au nom de Roch Marc Kabore, Siméon Sawadogo a accepté la charge.
C'est avec un sentiment de grande responsabilité que j'accueille cette décision du congrès extraordinaire de notre parti de m'investir comme son candidat à l'élection présidentielle du 22 novembre 2020. C'est un devoir patriotique pour moi de répondre oui.
Le choix du candidat Rock est aussi celui des partis de la majorité présidentielle. Le candidat du parti ayant été investi, les militants affirment en cœur qu'ils gagneront la bataille de 2020. Là-dessus, Lassane Sawadogo, un militant des premières heures du MPP, est convaincu de la victoire dès le premier tour.
Ce n'est pas une histoire de penser. Nous avons la conviction que le coup de chaos va se faire. Et nous sommes même convaincus que nous ferons mieux qu'en 2015.
Kader Traoré, Ouagadougou pour VOA Afrique.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale.